ça fait à peu près un an maintenant qu'il y a des mouvements de contestation majeurs dans les plus grandes villes du Brésil, qui sont principalement São Paulo et Rio, qui contestent une augmentation assez importante du prix des transports. Et l'origine, c'est un mouvement social qui s'appelle Movimento Passa Livre, c'est-à-dire mouvement passe libre, qui demande un retrait tout simplement de cette augmentation du prix des transports, qui représente, il faut le savoir, presque un tiers du budget d'un Brésilien de classe moyenne, contrairement à nous, Français, qui payons un moindre prix pour ce budget-là, qui n'est même pas un budget pour nous. Eux, c'est vraiment équivalent au budget de nourriture d'une famille moyenne. Et on pensait que la Coupe du Monde allait un peu peut-être alléger les esprits, parce que c'est vrai qu'on le cliché qu'on entend souvent, que le football au Brésil est plus qu'une passion, c'est une religion, est assez vrai. Par contre, l'organisation d'un tel événement s'est avérée beaucoup plus compliquée dans les faits, pour beaucoup de raisons, et ça a un peu envenimé les choses quand ils ont voulu s'installer, notamment avec les normes FIFA, autour du stade du Maracana. Certains nombres de populations, 8523 familles au total, ont été déplacées, dont 10 accidents, 10 morts relevés ces dernières années, qui ont vraiment enflammé et fait naître un gros mouvement de contestation, au-delà du mouvement initial qui était de contestation des prix, l'augmentation des prix de transport.
Alors pour en rester sur la contestation, elle ne s'arrête pas là. On peut parler peut-être d'autres mouvements. Je pense au Sans Toit, je pense au Sans Terre, je pense aux Indiens d'Amazonie. C'est quand même assez large la critique du gouvernement sur cette gestion de la Coupe du Monde, d'avoir donné beaucoup d'argent pour construire des stades et peut-être moins pour ces communautés que je viens de citer, et aussi pour les services publics en général.
La contestation qu'il y a autour de l'organisation de la Coupe du Monde, c'est pas qu'un ras-le-bol de l'augmentation d'un ticket de transport, c'est une contestation manifeste depuis la sortie de la dictature, d'une absence de services publics de qualité démocratique et accessible à tous, ça c'est incontestable. Et un exemple moi que je trouve très bien en fait pour comprendre un peu que c'est un ras-le-bol général et que c'est pas seulement un cas particulier autour d'une construction, c'est un hymne chanté par le chanteur Kribrig, qui fait un hymne de contestation à l'hymne national brésilien. Et qui, dans ses paroles, je vous en lis un extrait, nous dit qu'on voit des jolis stades, des jolis monuments, alors que les écoles et les hôpitaux sont en ruine. Il s'adresse à Parreira, le sélectionneur de l'équipe du Brésil en 1994. Et il lui dit qu'il a vu plusieurs abîmes se développer et plusieurs Brésils naître. Moi, je trouve ça très fort et je trouve ça très représentatif, en fait, du ras-le-bol brésilien.
Comment tu vois cette contestation durant la Coupe du Monde un petit peu Est-ce que les Brésiliens vont se calmer comme Michel Platini, président de l'UEFA, l'a demandé, histoire de laisser passer ce mois de fête, ou est-ce qu'ils vont continuer à faire valoir leurs droits et leurs revendications?
Moi, je dis un grand merci à Michel Platini pour cette remarque. C'était... Je trouve ça très, très intéressant. Moi-même, je ne sais pas comment j'aurais pris en tant que Française si j'apprends que la retraite passée à 80 ans et qu'on me demande de me calmer lors de l'organisation de la Coupe du Monde et d'attendre quelques instants le temps que la fête se termine. Non, moi je pense pas franchement que les Brésiliens vont se calmer vu la manière dont est gérée l'organisation de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que comme d'habitude, c'est vraiment face à ça, un événement... sociale, la seule réponse est une réponse sécuritaire, de verrouillage et de quadrillage des zones aux alentours du stade, de déplacement et de violence auprès des populations évidemment les plus pauvres et les plus défavorisées.
Avec l'utilisation de la police militaire dans les favelas quand même.
Exactement, bon, elle a toujours été plus ou moins présente, mais là c'est un niveau tellement organisé que ça en devient assez impressionnant. Donc on a décelé entre la fin de l'année 2013 et le début de la Coupe du Monde une quinzaine d'assassinats mal élucidés et qui ont tous eu lieu dans le cadre de déplacements de populations brésiliennes autour du stade, dont un danseur très connu qui était très apprécié dans les favelas.
Douglas Rafael da Silva Pereira.
Oui, exactement.
Rio, qui voilà. s'est illustré par un clip où justement il mettait en scène son propre assassinat dénoncer la violence policière. Il a mis en scène son propre assassinat dans ce clip et finalement c'est ce qui a fini par lui arriver. Il fait pas bon contester le pouvoir en place au Brésil ou qu'est-ce qui se passe ?
Il n'a jamais fait bon contester le pouvoir en place. Après, il y a de nombreux dérapages dans les favelas et c'est notamment pour ça qu'ont été mis en place les polices de pacification. Ils sont renforcés justement actuellement dans le cadre de la Coupe du Monde. Mais le nombre d'affaires non élucidées au Brésil dépasse le nombre d'affaires non utilisées de tous les pays en voie de développement rassemblés. C'est limite. Une exception qu'avoir un cas élucidé dans certaines favelas. Ce qui a joué, c'est la présence de nombreux journalistes sur place dans les favelas qui ont pu relayer l'événement. Mais de là à dire, est-ce qu'on peut dire qu'effectivement il y a plus d'assassinats parce qu'on conteste ou il y a plus d'assassinats parce qu'on les voit plus dans le cadre de la Coupe du Monde ? C'est ça que moi je me posais la question. En tout cas, oui effectivement, sans ce relais médiatique, on n'aurait même pas eu accès à ces données-là. Et je pense que la contestation dans les favelas a toujours existé, c'est juste que là, elle est un peu plus visible. Et c'est aussi pour ça qu'on commence à se poser ce genre de questions.
Je veux dire, elle est visible parce que les caméras sont braquées sur le Brésil à l'occasion de la Coupe du Monde.
Je pense qu'elle est effectivement un peu plus visible parce que les caméras sont braquées sur le Brésil durant la Coupe du Monde et parce qu'elle est un peu plus organisée, parce qu'il y a un certain nombre de mouvements comme les Media Ninja, je ne sais pas si tu vois ce que c'est.
Si tu peux nous apporter une précision là-dessus, ça c'est très intéressant.
Les Media Ninja, donc leur nom Media, c'est une forme de journalisme qui pense à travers les réseaux sociaux dans le sens où elle mise sur la rapidité des réseaux sociaux pour transformer et pour envoyer l'information en quasi temps réel et provoquer des réactions en chaîne, des réactions sur place localement des habitants tout immédiatement alertés qui protégeront les alentours, mais aussi des réactions immédiates de la part des autorités, de la société civile et des institutions représentatives. Et ainsi, elles espèrent exercer un rôle de vigilance, de veille. Donc c'est ça le grand intérêt, moi, de Media Ninja, que j'admire beaucoup, qui est un très bon relais, en règle générale, sur des événements comme ça, de manifestations sociales. Je ne sais pas si ce n'est pas la meilleure forme de vigilance citoyenne.
Et pour en revenir à ces expulsions dans les favelas, j'imagine qu'il y a des projets touristiques immobiliers derrière assez juteux qui voient le jour à l'occasion de la Coupe du Monde. On a beaucoup parlé sur l'antenne de Radio Zinzine de ce genre d'agissement pour les Jeux Olympiques de Sochi. On a viré des populations pour construire des hôtels. Est-ce que au Brésil en ce moment, il se passe le même genre de choses ?
Oui, ouais, complètement. En fait, à la logique répressive que je viens de décrire, qui est d'effacer toute forme de contestation, on voit naître un gros programme de transformation urbaine qui est dirigé volontairement vers le tourisme de masse, tourisme qui rapporte le plus. Les acteurs principaux, c'est l'armée de terre qui est elle-même composée de forces armées brésiliennes et de la police militaire de l'État de Rio, qui ont occupé tout le complexe de la Marée. Donc la Marée, c'est un ensemble de favelas de 14 000 habitants qui s'étend de la zone nord de la ville de Rio jusqu'à 31 km plus au sud. C'est dans cette zone plus particulièrement qu'on a vu des manifestations qui tentaient d'investir les axes routiers principaux de la ville pour montrer justement que cette zone était reconstruite à destination exclusive des touristes et dont les prix étaient multipliés par 4 voire 10 fois. Les manifestations ont volontairement choisi de bloquer cette zone-là, qui est appelée la ligne rouge, qui est la ligne en fait qui relie les arrivées des stades à l'aéroport, pour justement montrer aux touristes qui seraient susceptibles de passer sur cette route les impacts qu'ont leur arrivée sur cette zone. C'est une politique d'augmentation des prix et de transformation de l'habitat qui est radicale et qui s'est fait très rapidement, en fait, en moins de 9 mois, le nombre de quartiers rasés. Et on peut parler de 3 à 4 hectares par jour. Dans le cadre de la Coupe du Monde, parce que les prix ont augmenté, est-ce que nous aussi, on ne serait pas, au final, violent à l'égard de...
Oui, d'autant plus qu'à côté, à côté de chez soi, il y a un stade qui se construit.
Voilà, en plus, avoir sous les yeux un stade flambant neuf qui se construit avec ce qu'on appelle les padrões FIFA, c'est-à-dire les critères FIFA qui sont trois fois au-dessus des critères normaux pour une Coupe du Monde, c'est-à-dire le budget, les multiplie par deux ou trois, je crois, par rapport à l'ancienne Coupe du Monde. L'argent dépensé, vraiment, on commence à se demander, mais c'est, même s'il y a des critères de qualité, où est-ce qu'il va, quoi? Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire de cet argent s'il avait été dépensé pour des bus, des hôpitaux, des écoles, ou ne serait-ce que, je sais pas, une autoroute sans bosse qui relie les écoles principales entre elles à Rio, que c'est même pas le cas. Donc oui, d'avoir forcément ça sous les yeux au quotidien, moi je pense qu'effectivement il y a de quoi voir rouge.
Du coup, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, une majorité de Brésiliens ne soutiennent pas la Coupe du Monde et ne soutiendront peut-être pas leur équipe nationale.
Alors, je ne sais pas si c'est une majorité, parce que moi, ce que j'avais lu, c'était que la dernière Coupe du Monde, 71% des Brésiliens soutenaient l'idée en 2010. Ils sont plus que 41%. Donc maintenant, il y a toujours une grosse majorité de contre maintenant. Je ne sais pas jusqu'à où ça va s'étendre, si d'ici la fin de la Coupe du Monde, s'ils sont éliminés d'ailleurs dès le début, les Brésiliens, comment ça va tourner? C'est ça aussi que je me pose comme question.
Tu veux dire que s'ils vont loin dans la compétition, ça calmera peut-être les manifestations?
Ah ben rappelez-vous déjà en 98, quand on avait éliminé le Brésil, le nombre de suicides dans la ville de Rio avait explosé cette nuit-là. Qu'est-ce qui se passe si le Brésil est éliminé dès le premier tour dans sa ville? Moi je ne sais pas trop y penser personnellement, parce que effectivement je pense que ce serait plus qu'une déception, quoi. Ça va beaucoup plus loin que ça, effectivement, quand on parle de religion footballistique au Brésil.
Alors justement, comment ils peuvent tourner le dos si rapidement à cette religion? Peut-être on peut en parler de cette religion. Quel est le rapport au foot des Brésiliens?
De mon expérience personnelle, hein, j'ai pas un grand rapport au foot. C'est pas le cas de n'importe quelle Brésilienne, et ça je l'affirme assez volontiers. N'importe quelle personne dans la rue, de tout âge, catégorie sociale, couleur confondue, a son équipe de prédilection, qui définit plus que des scores ou des résultats, un trait de la personnalité de la personne. Donc ça m'a vraiment surpris. C'est toujours sujet à de monstrueux débats familiaux interminables sur pourquoi soutenir telle ou telle équipe. En temps de coupe nationale, ce sera l'équipe des, je sais pas, par exemple, les Flamengos contre le Flamengo de Rio, hein, contre les Palmeiras, par exemple. Et en temps de Coupe du Monde, tout le monde se range derrière le maillot brésilien. Et tout le monde est dans la rue. Et ça c'est, effectivement, c'est une grosse différence que je trouve par rapport à la France, qui est pourtant un pays très, très footeux. C'est la démocratisation du foot. Tout le monde est vraiment sur un pied d'égalité quand on parle de foot dans un bar. Après, les joueurs préférés divergent et l'Argentine vient très rapidement sur le tapis comme grand ennemi numéro un. Mais sinon, globalement, tout le monde est capable de parler de son joueur préféré, tout le monde est capable de dire pourquoi il l'aime et pourquoi il préfère son équipe, ce qu'on ne voit pas forcément en France.
Ouais, donc c'est dire que le ras-le-bol a atteint un paroxysme assez important. Puisque malgré cette culture-là, il y a quand même une contestation justement de la Coupe du Monde et de ce qui va s'y jouer. On va finir cet entretien avec un petit mot d'un éditorial de Libération. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude, comment dire, de la grosse armada médiatique ici en France qui nous ramène la Coupe du Monde et toute la ferveur qu'il y a autour. Et parfois on oublie un petit peu la critique, même si on a vu passer quelques articles qui faisaient état des manifestations sans pour autant dresser un détail un petit peu des tenants et des aboutissants. Et pour toi, Camille, Libération se démarque un petit peu de la presse française sur sa vision du Brésil et de ce qui s'y joue socialement vis-à-vis de la Coupe du Monde en ce moment?
Bah oui, sincèrement, moi je sais pas qui est l'auteur de cet éditorial, enfin la personne en particulier, mais je tiens vraiment à dire un grand bravo à toute l'équipe de Libération qui ont fait l'effort de choisir une autre couverture qu'une femme en maillot devant Corcovado à la plage, ou alors Là, je pense notamment au Courrier International qui a fait une couverture, mais je comprends vraiment pas comment on peut aller au-delà de clichés avec ce genre de choses. Ou même Télérama, le Brésil dans tous ses éclats, avec encore une fois des enfants sur la plage qui jouent avec le ballon de foot. Moi, je pensais que si on, tant qu'à faire, on est un événement majeur comme ça, tel que la Coupe du Monde au Brésil, est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de clichés comme ça et rappeler que oui, on a tendance à penser que c'est un pays qui glorifie le métissage, mais il faut aussi savoir que le Brésil, c'est un pays où le racisme se cache souvent derrière l'homme cordial ou la femme cordiale. Donc ça, je cite Libération. Libération rappelle aussi que c'est un pays moderne, a priori, qu'on décrit comme pays émergent, c'est sûr. Mais comme le rappelle le philosophe Michel Fossel, c'est un pays où le miséreux n'est pas perçu autrement que comme un esclave qui devrait se sentir honoré de servir. Et enfin, on a tendance à décrire le Brésil comme un pays aux richesses naturelles sans équivalent. Oui, alors, mais il faut aussi savoir que c'est un pays très inégalitaire où les terres appartiennent en majorité à de grands propriétaires terriens et qui maintient de nombreux petits paysans dans la pauvreté. Voilà, c'est trois petits clichés du Brésil qui quand même sont parfois... C'est parfois nécessaire de les faire un peu descendre de leur piédestal, même si oui, effectivement, de prime abord, on pourrait dire que c'est pas vraiment des clichés.
Bon, mais Camille, merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation. Et puis à bientôt sur Radio Zinzine. N'hésite pas à revenir quand tu veux. On aura plaisir à t'accueillir à l'antenne.
J'hésiterai pas. Merci beaucoup et à très bientôt alors.
Copa do Mundo de 2014. Bem-vindo ao Brasil.
Desculpe, Neymar, mas nesta Copa eu não torço por vocês. Estou cansado de assistir o nosso povo definhando pouco a pouco nos programas das TVs. Enquanto a FIFA se preocupa com padrões, somos guiados por ladrões que jogam sujo pra ganhar. Desculpe, Neymar, eu não torço desta vez. Barreira eu vi, aquele tetra fez o povo tão feliz. Mas não seremos verdadeiros campeões gastando mais de 10 bilhões pra fazer Copa no país. Temos estádios lindos e monumentais, enquanto escolas e hospitais estão à beira de ruir. Parreira, eu vi um abismo entre Brasis. Foi mal, Filipão, quando Cafu ergueu a taça e exibiu suas raízes num momento tão solene. Revelou o Jardim Irene, um retrato do Brasil. A primavera prometida não chegou. A vida vale mais que um gol. E as melhorias onde estão? Foi mal, Filipão. Nossa pátria não floriu. Eu sei, torcedor, que a minha simples e sincera opinião não vai fazer você que ganha e vive mal deixar de ir até o final junto com nossa seleção. Mesmo sem grana pra pagar o ingresso caro, nunca vai deixar de amar o nosso escrete aonde for. Eu sei, torcedor, é você que tem razão.